Aujourd'hui, Pop & Co, c'est l'histoire de musiciens qui se sont fait traiter de tous les noms à leur début. On les a appelés minets de gouttière pop, on les a qualifiés de garçons coiffeurs. C'était le début des années 80. Aujourd'hui, Pop & Co est donc Pop & Depeche Mode, de 1981 à 1990. Le groupe fête ses 40 ans cette année et son chanteur, Dave Gahan, publie un album de reprise qu'il a intitulé « Imposteur ». De 81 à 90, Depeche Mode a construit un son qui n'a cessé de s'enrichir. Ces morceaux furent la bande originale d'un pays qui a radicalement changé pendant cette décennie. C'est l'Angleterre ultra-libérale de Margaret Thatcher. Dans ces années-là, Depeche Mode a publié des chansons en opposition sur des ritournelles synthétiques, des chansons comme de la propagande de contrebande, au fond. Moqué à ses débuts, Depeche Mode est devenu intouchable en 10 ans et c'est l'épopée de cette conquête que je vous raconte ce matin. 40 ans de carrière pour eux et 50 pour Hubert Félix Thiéphen. Un peu avant midi, on entre dans les coulisses d'un de ses morceaux de son nouvel album qu'il a conçu avec Lucas Thiéphen, son fils. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Les invités de transit sont appelés à se présenter au satellite 102 pour embarquement immédiat.
Bienvenue en 1982. La dame l'a dit, l'émission s'intitule Transit. Elle est présentée par Patrick Sabatier.
Bonjour et bon après-midi.
La télé est allumée sur TF1.
Ils sont venus, ils sont tous là pour vous cet après-midi jusqu'à 15h25. En transit, voici Philippe Châtel. Louis Chédid. Dalida. Depeche Mode.
Philippe Châtel, Louis Chédid, Dalida, Depeche Mode. Trouvez l'intrus. À vous, Patrick.
Alors, ils en raffolent, figurez-vous, ces Anglais. Ils en raffolent, ils en redemandent. Et nous aussi, d'ailleurs, car ça marche très bien en radio. Attention, ce n'est pas du rock'n'roll. Ils appellent ça là-bas de l'après-new wave. Just can't get enough, Depeche Mode.
À cet instant précis, pour illustrer cette musique dite après-new wave, le caméraman zoome sur ce que j'appellerais un lapin Duracell posé sur la scène derrière le groupe, donc une peluche rose et mécanique qui tape sur un tambour. Apparaît ensuite le visage poupon d'un gamin de 20 ans pile, il s'appelle Dave Gahan.
Depeche Mode, c'est un groupe que j'ai longtemps détesté.
Voici Sylvain Fanet. Il est l'auteur de Standing on a Beach, la New Wave, en son disque essentiel.
Et pour moi, effectivement, au départ, c'était des types un peu insignifiants avec des synthés. Et j'ai commencé à les prendre un peu au sérieux avec Never Let Me Down Again, à me sentir touché par cette mélodie.
Never Let Me Down Again, autre chanson sur laquelle on s'attardera dans ce numéro de Pop & Co.
Et l'album Violator m'a définitivement conquis et je suis devenu, à partir de là, un fan absolu du groupe, y compris finalement d'albums du début que j'avais finalement même pas pris la peine d'écouter au départ.
Commencé à Basildon, ville nouvelle de la grande banlieue de Londres. Deux gamins décident de former un groupe. Ils s'appellent Vince Clark et Andy Fletcher. Arrive un troisième, Martin Gore, et Dave Gahan comme chanteur.
C'est Vince Clarke qui est le leader du groupe qui va s'en aller juste après le premier album. Il leur fallait un chanteur, ils ont trouvé Dave Gahan, qui lui était un peu le rebelle de la bande. Hein. Il a eu une adolescence assez un peu plus rock, il a été un peu punk justement. Ils arrivent de manière très naïve hein, quand on les voit sur les premiers clips, c'est très très kitsch, etc. Et on va pas mal se moquer d'eux d'ailleurs, ils auront le surnom de garçons coiffeurs, ils sont pas pris très très au sérieux, c'est pas les plus lookés.
Voilà, c'est le groupe Depeche Mode, c'est un groupe anglais, il paraîtrait même que Lady Di en raffole.
Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle faisait Lady Di en 1981? Le 29 juillet, 750 millions de téléspectateurs la regardent parce qu'elle se trouve à la cathédrale Saint-Paul de Londres, aux côtés d'un type dégarni, avec une robe à traîne interminable, des carrosses, des bagues et tutti quanti.
Il est 10h14 dans la cathédrale de Saint-Paul quand le prince Charles passe l'anneau au doigt de sa femme Lady Diana. Certains verront dans le faste occasionné par cette cérémonie un gâchis incroyable de ressources financières et humaines. Dans un monde où domine la violence, la peur et l'angoisse, qui peut chiffrer à son juste prix le plaisir de prendre part à un tel conte de fées?
Si l'Angleterre était un 45 tours, l'union de Charles et Diana en serait la phase A. Pour la phase B, en ce mois de juillet 1981, l'Angleterre connaît les plus grandes émeutes urbaines depuis la Deuxième Guerre mondiale. On parle de ville chaudron. Extrait d'Interactualité, Ralph Pinto au micro.
En deux ans, le nombre des sans-emploi a doublé en Grande-Bretagne. Les experts économiques parlent de 3 millions de chômeurs l'an prochain et de 800 000 jeunes jetés dans la rue en 1983. Ce qui se passe depuis plus d'une semaine en Grande-Bretagne, c'est aussi que la société multiraciale type ne résiste pas à un long tunnel de récession, de pauvreté. Et contre ça, il faudrait que le gouvernement britannique modifie de fond en comble toute sa philosophie économique et sociale. Est-ce possible? Madame Thatcher peut-elle le reconnaître? Veut-elle y répondre même? La voilà, je crois, la vraie question.
Sylvain Fanet.
Quelque chose qui finalement fédère tous les artistes et tous les musiciens, c'est cette opposition à Thatcher qui va susciter des dizaines, voire des centaines de chansons, de morceaux. On se souvient de Morrissey, le chanteur des Smiths, qui écrit même un morceau où il imagine Margaret Thatcher guillotinée. Donc il y a vraiment quelque chose de très virulent contre Thatcher. Et Depeche Mode s'inscrit aussi, pas forcément de manière explicite, dans ce courant qui, de toute façon, s'oppose totalement à un pouvoir très conservateur.
La bande-son de l'Angleterre de ces années-là, c'est une nouvelle esthétique musicale. Ce documentaire de la BBC 4 intitulé Synth Britannia vous la présente comme ça. Bienvenue dans une époque où il n'y avait ni guitare ni batterie, juste des synthétiseurs. C'était les années 70. Le lieu, la Grande-Bretagne. Nos héros, une bande de jeunes pionniers rebelles obsédés par l'électronique allemande de Kraftwerk et la science-fiction. Partout en Grande-Bretagne, les rêveurs synthétiques imaginaient le son même de l'avenir. Et dans les années 80, leur rêve deviendrait réalité à mesure que la Grande-Bretagne se convertirait à la synth-pop. Bienvenue à une époque où la machine règne sur le monde. Et voici New Life, chanson parue en 1981 sur le premier album de Depeche Mode.
La New Wave, et ça peut paraître bizarre, mais va finir le travail qu'a commencé le mouvement punk, qui était vraiment le rejet de tout ce qui avait précédé avant, mais qui malgré tout continuait à faire du rock avec des guitares Et finalement, la New Wave va aller beaucoup plus loin en construisant une vraie esthétique qui, en tout cas, s'inscrit musicalement dans une opposition vraiment de toute la culture rock et blues classique des 30 années qui ont précédé, en cultivant un son qui est beaucoup plus froid. Donc les guitares sont souvent absentes, elles sont en tout cas la plupart du temps mises en retrait. Et voilà, en définissant finalement une esthétique qui va être soit carrément glaciale, c'est la partie la plus sombre de la New Wave, ou alors un côté beaucoup plus léger, ce sera effectivement la pop synthétique dans laquelle, à ses débuts, Depeche Mode s'inscrit. On est en fait dans quelque chose qui, a priori, n'a aucun lien avec une critique politique du système qui est en place. Mais en fait, on est dans une mouvance qui est un petit peu plus large, qui est le courant le plus léger de la New Wave, ce qu'on appelait la synth-pop, la pop synthétique, et qui prend en fait toute cette période un petit peu à rebours, c'est-à-dire en se disant « Ok, rien ne va plus, on n'a plus de boulot, c'est la crise, on va faire la fête ». Et donc célèbre un certain hédonisme, une certaine liberté qui va se traduire aussi dans le look, dans un côté très dansant aussi de la musique. Donc on est plus du tout dans la hargne du punk, on est dans quelque chose de beaucoup plus festif. Et Depeche Mode, à ses débuts, s'inscrit complètement dans cette mouvance qu'on a aussi appelée les New Romantics.
Cette génération et cette nouvelle esthétique musicale s'incarnent dans un lieu, le Blitz. En gros, le Blitz, club de Londres, est à la New Wave ce que le Studio 54, boîte de New York, fut à la musique disco. Donc, un endroit branché où l'on croise David Bowie, mais où Mick Jagger se fait refouler. Un endroit où se produisent des groupes dans un festival de look avec garçons à mèches et aux yeux noircis de cole. La New Wave, c'est donc un son, un look, un lieu et aussi l'invention d'une nouvelle économie. À la charnière des années 70-80 sont créés de nouveaux labels. Factory Records, 4AD... des structures indépendantes à taille plus humaine qui racontent une autre conception de la musique et de l'industrie.
Et c'est encore une fois dans la continuité du punk, hein, puisque un des credos des punks, c'était le do-it-yourself, c'était vraiment l'idée que...
Fais-le toi-même.
Voilà, fais-le toi-même. On peut produire de la musique ou de l'art, d'une manière générale, en se débrouillant soi-même, en fabriquant même ses disques, en les distribuant soi-même. Et ils n'ont pas tellement eu le temps, finalement, les punks, d'aller au bout de tout ça, puisque ça a été très éphémère. Et ce début des années 80, tout ce début de la New Wave permet ça, en fait, effectivement, avec la création de ces labels. Et on va un peu dans l'aboutissement de ce do-it-yourself. Et évidemment, ça ne durera pas une éternité, puisqu'à un moment donné, les gros labels vont absorber ces petits labels. Mais c'est quand même une petite révolution aussi dans l'industrie musicale.
Depeche Mode participe à une nouvelle économie. Le groupe signe avec un label indépendant, c'est Mute Records, créé par Daniel Miller. Daniel Miller est loin de n'être qu'un patron. Il est comme l'un des membres à part entière du groupe. En 83, la composition de Depeche Mode a changé. Vince Clark est parti. Arrive le claviériste Alan Wilder. Reste Martin Gore, Andy Fletcher et Dave Gahan. De ce morceau, Everything Counts.
On y voit une critique tout simplement de l'argent facile et du côté prédateur que les musiciens avaient pu déjà observer dans l'industrie du critique du disque en général, et plus largement, on peut y lire une critique du capitalisme. Et encore une fois, on est au début des années 80, on est aussi dans cette espèce d'expansion de l'ultralibéralisme, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, avec l'argent qui devient une valeur qui est magnifiée, en fait, souvent dans la société.
Critique du capitalisme, donc, sur fond de Flutio, posée là au milieu. Et sur la pochette de l'album où figure cette chanson, Everything Counts, on voit un sommet des Alpes. C'est le pic du Cervin. Au-dessus, un forgeron s'apprête à taper sur le pic avec une massue. On est en 1983, en pleine guerre froide, et cette image, signée Brian Griffin, s'inspire de l'esthétique du réalisme soviétique. Si une bande-son synthétique s'invente dans ces années-là, l'image devient reine aussi.
C'est Facebook, Instagram de maintenant, quoi. Ça diffuse finalement une culture populaire qui va être extrêmement influente sur les jeunes générations. Donc oui, c'est vraiment nouveau. C'est peut-être la première fois qu'on a vraiment une musique qui se regarde autant qu'elle s'écoute.
Il avait les ongles peints, le torse nu, des boucles blondes et des souliers à clochettes. C'est Martin Gore, auteur, compositeur des chansons de Depeche Mode, l'âme dans l'ombre du groupe, en gros, et un look qui prenait la lumière.
À travers le personnage de Martin Gore, on a quand même une expression esthétique assez forte, puisqu'à ce moment-là, durant toute cette période, en fait, Martin Gore affiche un look très provocant. On le voit souvent en cuir, en barésie, en jupe. Faut pas oublier que son artiste préféré, c'est David Bowie, qui a fait ça 10 ans plus tôt, hein, avec beaucoup d'ambiguïté dans son image, dans son statut. Et l'idée de Martin Gore, c'est pas tellement de revendiquer une bisexualité qu'on lui prêtera, mais lui l'a toujours nié, en fait. Mais en revanche, c'est effectivement d'aller provoquer, d'aller un peu secouer cette Angleterre très conservatrice.
Et pendant ce temps, en France, c'est Cadence 3, Ring Parade, émission de variété de FR3, une sorte d'alternative au top 50, présentée par Guy Lux.
Sur notre plateau, nous avons, il faut bien le dire, un des groupes les plus formidables du moment. Ils sont 5e en moyenne de tous les points de vente en France. Tenir les 5 premières places, il faut le faire, mais c'est ce que réussit, et c'est tout à fait naturel, ce grand groupe anglais, Depeche Mode, en direct sur notre plateau, Master and Sella. It's a lot,
it's a lot, it's a lot, like life. Ce que Guy Lux ignorait peut-être, c'est le sens de la chanson qui allait être interprétée en prime time en cette soirée du 23 janvier 1985. Le morceau s'intitule « Master and Servant » et voici le texte. « Il y a un nouveau jeu que nous aimons, ça s'appelle « Maître et serviteur ». Tu me traites comme un chien, tu me mets à genoux. Ça ressemble beaucoup à la vie. Oublie l'égalité, ce jeu entre les draps, avec toi au-dessus et moi en dessous. Depeche Mode causait donc sadomasochisme aux Français entre deux cuillères de soupe et un coup de fouet. »
De peu d'être censuré par la BBC, mais le type le plus conservateur qui voulait absolument le censurer était en vacances au moment où ça a été voté. Donc le clip est passé, enfin le morceau est passé un petit peu entre les mailles du filet. Bah, c'est un morceau qui est intéressant parce qu'encore une fois, il a cette double lecture, c'est-à-dire il est ouvertement sexuel et il aborde assez ouvertement des pratiques sadomaso. donc avec vraiment des paroles qui font référence à ça, un certain nombre de bruitages aussi, hein. Il y a des claquements de fouet, enfin, on est vraiment dans ce registre SM assumé. Et derrière, ben, finalement, sur cette description d'une relation dominant-dominée, il y a une double lecture, comme souvent, et cette double lecture, c'est vraiment la lecture de la vie en général, de la vie au travail, où on est voilà sous le poids de certains dominants. Il y a toujours un premier degré qui ici est ouvertement sexuel, très provocant, et derrière une lecture un peu plus fine qui aborde finalement les vraies questions de la société et du monde du travail aussi.
Au moment même où Depeche Mode fait un tube avec cette chanson, Master and Servant, l'Angleterre connaît la plus grande grève de son histoire. Les mineurs luttent contre la fermeture d'une vingtaine de mines de charbon. Cette grève dure un an. Et c'est un tournant dans l'histoire de l'Angleterre. La lutte des mineurs se termine par leur défaite et le triomphe du thatchérisme. Ce milieu des années 80 est aussi un tournant dans l'histoire de l'humanité, avec une pandémie qui touche d'abord les homosexuels, c'est le sida. En 1984, Depeche Mode publie le morceau « People are people », « Les gens sont ce qu'ils sont ». La communauté gay, qu'on n'appelait pas encore LGBTQI+, en fait un hymne. Nous sommes en 1984 et le son de Depeche Mode a déjà beaucoup changé. Sylvain Fanet, auteur de Standing on a Beach, la New Wave en 100 disques essentiels.
Donc petit à petit, on s'éloigne de cette pop synthétique très naïve des débuts. Il y a effectivement beaucoup plus de consistance dans la musique. Ils ont aussi l'apport de Alan Wilder qui a rejoint le groupe et qui est un musicien de formation plus classique et qui est passionné par le son, qui va beaucoup étoffer le son de Depeche Mode et les compositions de Martin Gore. On a un chanteur aussi, Dave Gahan, qui commence à devenir beaucoup plus charismatique, qui a une voix qui commence à prendre beaucoup plus d'ampleur et ça va s'accélérer par la suite. Et on a effectivement des influences musicales qui sont beaucoup plus vastes, notamment parce que le groupe est beaucoup allé fouiner dans la musique industrielle allemande de la fin des années 70, du début des années 80, et qu'ils ont aussi l'opportunité d'utiliser le sampling en fait, qui permet voilà, d'aller dans la nature, enregistrer un bout de bois, le bruit d'un ruisseau et de l'intégrer dans sa musique. Alors eux, ils vont plutôt intégrer des coups de bâton sur des seaux ou sur des tuyaux et ça va donner ce son industriel qui peut surprendre quand même parce qu'on est dans un groupe très populaire quand même sur la culture très pop et c'est des sons qui peuvent être un peu pointus, un peu underground, un peu inquiétants aussi. Donc c'est vrai qu'ils vont petit à petit intégrer cette dimension dans leur disque et rendre leur musique d'autant plus passionnante finalement.
I'm going cheap. Bonjour, je m'appelle Andy.
France Inter.
Bonjour, je m'appelle Martin.
Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Andy Fletcher, plus Martin Gore, plus Dave Gahan, plus Alan Wilder, encore présent à l'époque, égale Pop & Depeche Mode jusqu'à midi.
We are a pop band as well.
On est aussi un groupe pop, bien sûr, parce qu'on a envie d'amuser les gens.
We don't expect to convert people.
On n'a pas envie de les convertir à un mode de pensée.
Like to give a bit more depth to our music.
Mais on veut juste donner un peu plus d'ampleur à notre musique.
Do look, there is something there if they
Il y a quelque chose là.
Further.
Si les gens veulent chercher,
Most
ils trouvent. La plupart des groupes pop sont juste commerciaux,
really.
Point.
Pop synthétique. Musique industrielle. Musique contemporaine et classique, notamment sous l'influence d'Alan Wilder, l'un des membres du groupe qui a composé ce morceau. Depeche Mode n'a donc jamais cessé d'élargir ses influences musicales. En 1987, un cinquième homme rejoint le groupe. Il n'est pas musicien, mais photographe. À ce jour, il façonne l'image de Depeche Mode depuis 35 ans. Il n'est pas anglais, mais hollandais, prénom Anton. Et je vous épelle son nom, C-O-R-B-I-J-N. Je n'en connais malheureusement pas la juste prononciation.
D'ailleurs, moi je dis Corbin, je ne sais pas comment on dit en vrai.
On va dire Corbin, comme le propose Renaud Monfourny. Renaud Monfourny est photographe, notamment pour le magazine Les Inrecuptibles. Je l'ai donc appelé pour parler d'Anton Corbin, qui a fait des images de Joy Division, U2, ou Depeche Mode. Des photos couleurs ou très granuleuses en noir et blanc qu'on identifie tout de suite. Corbin déboule à Londres à la fin des années 70 et Renaud Monfourny vous raconte l'époque.
Il y avait énormément de presse musicale, il faut bien voir comment tout ça se fait et marche. Donc il y avait trois hebdomadaires de rock et qui avaient, je sais pas, 80 pages toutes les semaines. Hein. Donc lui, il a commencé à travailler pour un des trois. Autre chose à remettre dans le contexte, le noir et blanc. Il faut dire qu'à cette époque-là, pour des questions économiques, la photo couleur coûtait cher et coûtait cher à imprimer. Donc il y avait encore beaucoup de photos noir et blanc dans les journaux. Donc en fait, tous les photographes qui travaillaient d'abord en noir et blanc et développaient leur style à travers le noir et blanc. On n'était plus du tout dans une espèce de glamourification artificielle. On considérait les gens qui faisaient de la musique comme des artistes, comme des gens normaux qui étaient des personnes et plus des images. Mmh. Donc en fait, le grand basculement qui s'opère à cette époque-là sur l'image des rockers, entre guillemets, c'est ne plus avoir une image publicitaire lisse et neutre et basique. Et donc là, on a vraiment cet exemple-là de Corbin avec à la fois U2 et Depeche Mode. Il faut imaginer que très vite, U2 et Depeche Mode en 86-88, ça commence à être déjà des très très gros poissons. C'est clair qu'ils ont tissé au-delà des liens professionnels, des liens amicaux. Tu vois, c'est pas juste allô, bonjour monsieur Corbin, on a un nouveau disque, vous voulez pas faire trois photos pour la publicité, une pour la pochette et un clip. C'était, il accompagnait les groupes sur des tournées, il avait un regard documentaire aussi avec son style photographique, mais un regard documentaire sur tous les à côté de l'industrie, quoi, finalement. Aussi, il faut dire que c'était sur un label indépendant, Depeche Mode, à cette époque-là. Voir aussi certainement qu'à l'époque, il y avait une plus grande liberté dans les labels. Et du coup, tous ces labels indépendants anglais ont vraiment façonné, que ce soit en photo ou surtout en design, une énorme iconographie, comme on dit aujourd'hui, avec des gens qui avaient une totale liberté et qui sont restés aujourd'hui dans genre les plus grandes pochettes de disques dans le rock, elles datent de cette époque-là et de l'Angleterre.
La collaboration entre Anton Corbin et Depeche Mode est inédite dans l'histoire de la pop. Par sa longévité, 35 ans, par son ampleur, puisque Corbin conçoit les pochettes, les photos promotionnelles, la scénographie des concerts, les clips. L'un de ses clips fait date. C'est celui du morceau Enjoy the Silence, diffusé en 90-91. Un clip devenu culte depuis. Dave Gahan y est déguisé en roi, avec couronne et manteau d'hermine, et il parcourt le monde avec une chaise longue sous le bras. Le groupe s'est dit « Anton Corbin est taré ». Mais ils l'ont suivi quand même. Enjoy the silence. Les images de Corbin avec Depeche Mode racontent aussi un moment de l'histoire de la pop. Moment qui est révolu aujourd'hui.
Lui, ne peut plus faire les photos qu'il veut avec les artistes pour la presse aux États-Unis. Ça fait très longtemps que tout a été repris en main par l'industrie et qu'il n'y a plus personne. Et on le voit bien parce que la seule image qu'on voit des artistes américains ou des acteurs ou tout ça, c'est l'école, on va dire, pour parler des gens très connus, Annie Leibovitz, c'est-à-dire des photos qui sont produites comme des photos de mode ou comme des films avec des dizaines de milliers de dollars d'éclairage, de décor d'un intervenant et tout ça. Enfin, c'est plus du tout l'échelle. Je suis un auteur photographe, j'ai une idée, j'ai un style et je me marie avec un groupe, avec un genre de musique qui me plaît, quoi.
1989. Depeche Mode publie 101, album live enregistré en juin 88 devant 75 000 personnes réunies au Rose Bowl de Pasadena, États-Unis. Ce concert fait l'objet non seulement d'un disque mais aussi d'un film d'Anton Corbijn et D.A. Pennebaker. On y mesure l'ampleur du groupe, sa conquête des États-Unis. Les Américains ne s'étaient pas enthousiasmés comme ça pour un groupe anglais depuis les Beatles. Never Let Me Down Again, c'est le titre de ce morceau, et revoici Sylvain Fanet, journaliste.
Le narrateur de la chanson parle en tout cas d'un ami dont on comprend assez vite que cet ami c'est la drogue en fait, hein, donc c'est vraiment un texte sur une espèce de distance qui est prise avec le monde et la réalité qui peut être l'effet d'une drogue mais qui est aussi je pense qui correspond aussi à une envie de l'époque et c'est pour ça que ça va parler autant à mon avis à la jeunesse de l'époque qui est engourdie par le chômage, par le peu de perspectives, encore une fois on est toujours dans la guerre froide, il y a le sida, il y a beaucoup de choses qui sont très dures et je crois que c'est une des forces aussi de Martin Gore à la fois dans ses paroles mais dans ses compositions, d'arriver finalement à incarner ce malaise qui est très personnel chez lui, donc quelque chose qui va parler à des générations entières en fait, dans lesquelles on peut assez facilement se projeter, donc oui le texte parle de drogue, mais je pense qu'il a une portée plus universelle qui fait vraiment mouche, quoi.
Tout au long des années 80, Depeche Mode a quasiment publié un album par an. Et ils ont survécu à tout, finalement. À ces fameuses années 80, déjà, et aux overdoses, aux crises cardiaques, tentatives de suicide, alcoolisme. C'est l'histoire d'un groupe né avec une esthétique musicale qui refusait les codes classiques du rock'n'roll et qui a fini par en épouser toute la mythologie, y compris en introduisant des guitares et du blues dans son électronique. C'est comme ça que Depeche Mode attaque les années 90 avec un sommet, l'album Violator. L'un des tubes de ce disque, c'est Personal Jesus, soit l'habitude de l'auteur Martin Gore de mélanger religion, pop et paganisme. En 2002, une icône de la musique américaine fait une reprise de Personal Jesus, c'est Johnny Cash. Pour Depeche Mode, qui n'a pas convaincu l'intelligentsia rock pendant trop longtemps, ça aurait valeur d'adoubement. Renaud Montfourny.
Ce qu'il faut voir, c'est que derrière l'électronique, il y a des super chansons. Et Depeche Mode, c'est exactement ça. Le meilleur exemple que j'ai, c'est quelqu'un que je connais qui connaissait la chanson Personal Jesus chantée par Johnny Cash. Mmh. Et un jour, tombe sur la version de Depeche Mode et me dit Ah, mais c'est qui ce groupe qui a repris la chanson de Johnny Cash? Donc voilà, pour moi, ça, c'est le plus grand compliment qu'on pouvait faire à Depeche Mode sur leur qualité de songwriter, quoi.
Et voici Johnny Cash reprenant Personal Jesus de Depeche Mode.
Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith.
Pour ce pop-up Depeche Mode, vous avez entendu Sylvain Fanet, auteur de Standing on a Beach, la New Wave en 100 disques essentiels paru aux éditions Le Mot et le Reste. Vous pouvez voir les photos de Renaud Montfourny, notamment dans Les Inrecuptibles, et sur son site renaudmontfourny.com. Et je vous signale aussi Violator, titre d'un album de Depeche Mode, et titre d'un livre que François-Emmanuel Trapp lui a consacré. C'est publié chez Densité, dans la collection Discogonie.
France Inter. Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Allô, oui.
Lucas ?
Oui, bonjour.
Ah, ça passe plus tout d'un coup. J'ai encore...
Ouais, je vais essayer de me mettre à un endroit où ça passe bien. C'est pas grave s'il y a le bruit des oiseaux.
Voici Lucas Thiéphaine, réalisateur du nouvel album de son père, Hubert Félix Thiéphaine. Avant de soulever le capot d'une chanson qu'ils ont conçue à deux, Lucas Thiéphaine choisit le prochain disque de Pop & Co.
Ok. Alors ouais, le titre que j'ai choisi, c'est Soul de Garnier et The Lemonheads. Déjà, je trouve que c'est un morceau qui est quand même assez hors format. C'est pas vraiment une chanson, on sait pas vraiment si c'est un morceau plutôt technoïde ou si c'est un genre de rock groovy. Et en fait aussi, tout simplement, parce que c'est vraiment des artistes que j'apprécie. Et que je trouvais ça rigolo de les voir faire un disque ensemble. Voilà.
Laurent Garnier, pionnier de la musique électro, plus le duo rock de Liminianas égale Soul, extrait de leur album écrit à six mains.
Il s'agit d'un petit mec de province. Il aime la musique et le cinéma.
Vous êtes de passage à Paris combien de temps ? Réponse, 24 heures. En deux mots et un point d'exclamation, il avait tout dit. Plus le séjour à Paris serait bref, plus Hubert Félix Thiéphen serait content. Hâte de repartir dans son Jura natal avant de reprendre la route et les concerts en janvier 2022. Le Jura, Hubert Félix Thiéphen l'a quitté il y a 50 ans pile pour débarquer à Paris. Petit, il s'est d'abord rêvé prêtre, et finalement ce sera chanteur. Aujourd'hui, Thiéphen, c'est une discographie qui s'étend sur 4 décennies. Géographie du vide est le titre du nouvel album qu'il a publié en octobre. Un disque qui est aussi une histoire de transmission, puisque c'est Lucas Thiéphen, fils d'Hubert, qui en a assuré la réalisation.
Je sais que Lucas a pillé toute ma discothèque, qui connaît bien mes préférences. Et moi-même, aujourd'hui, c'est moi qui vais un petit peu piller sa discothèque. Et souvent, il me met des titres à écouter sur le bureau de mon ordinateur. Voilà, donc, ces 10 dernières années, j'ai surtout écouté beaucoup de musique classique, de musique contemporaine. On se raconte un petit peu ce qu'on entend aussi, ce qu'on écoute. On se donne des tuyaux. On est complémentaires. Ce qu'il y a, c'est que je voulais aller vraiment faire bouger les choses. Donc, je trouvais déjà intéressant de prendre un jeune mec pour réaliser et pas un mec de ma génération, comme si on prenait un virage et voilà, on continue.
Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois. Les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend la couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant, dis-moi.
Ce matin, Pop & Co entre dans les coulisses de ce morceau, la fin du roman, réalisation arrangement Lucas Thiéphen. Texte et chant, Hubert Félix Thiéphen. Musique, Joseph Danvers.
Oui, mais il a composé d'abord. Parce qu'il m'a envoyé la chanson où il chantait en yaourt dessus. Et moi, j'essayais de mettre le texte. Le yaourt, c'est bien pour les sonorités. Donc j'ai utilisé un peu ces sonorités au début. Je sais que par exemple, suis la flèche, il y avait esh. Il y avait un esh dans ces sonorités. Donc moi, j'ai tilté sur flèche.
C'est le son du yaourt de Joseph Danvers qui vous a guidé pour écrire le texte.
En quelque sorte, pour me lancer dans le texte, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai commencé à faire 2-3 vers, j'ai compris que à peu près là où je voulais aller.
Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois les chasseurs d'illusions sur les toits.
Bon, c'est pas mal, hein. Il y a des effets dessus, quand même. Je pense que Lucas voulait m'entraîner plus à chanter, en fait. Moi, j'ai eu des réalisateurs qui aplatissaient la voix. Enfin, par aplatir, je veux dire qui voulaient pas que je fasse trop de notes non plus, que j'enlève de la mélodie. Moi, je viens du grégorien et du blues, hein, donc ça, parfois, c'est quand même assez linéaire. Donc là, chaque mot a vraiment des notes. On n'est plus à mettre des notes sur une phrase, mais il y a vraiment des notes sur les mots.
Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman. Heureux dans l'instant, dis-moi.
Je me suis rendu compte assez vite que je trouvais que la majorité des chansons de Thiéphen étaient un peu basse en tonalité pour lui. Et en fait, on a commencé, même sur scène, on le fait pas mal, à monter un peu les tonalités. Et c'est vrai que je trouve que la voix est plus lumineuse. Elle est plus ouverte, ça demande de chanter un peu plus, mais je trouve qu'il est plus juste et que sa voix a rajeuni, en fait, finalement.
Et puis, j'ai écouté certaines de mes chansons, surtout à mes débuts. Je refuse ça aujourd'hui, quoi. Parce que c'est... C'est le mec qui est sur scène et qui dit écoutez-moi, qui lève les bras, qui bouge beaucoup. Enfin, c'est plus comme ça que je vois les choses, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai, c'était très théâtral à mes débuts. Ben, la chanson, c'est autre chose que le théâtre. Donc, il faut trouver la place de la chanson, là, au milieu. Et ça va, on a compris qu'il y avait un problème, ou pas d'ailleurs, mais c'est pas la peine, le texte est là, la musique derrière, elle accompagne tout ça, et ça doit suffire en soi.
Le pied de cette chanson, c'est cette ligne de basse qui, pour moi, est vraiment le gimmick du titre. Ensuite, c'est cette ligne mélodique. C'est le truc qui, moi, me reste en tête à la fin de l'écoute. J'aime bien quand la basse se détache un peu du reste et vient chanter avec la voix. Je trouve ça très mélancolique et je trouve ça lumineux. Pour moi, la mélancolie est lumineuse. C'est pas de la tristesse, c'est pas sombre.
C'est la base même de cet album. C'est-à-dire, moi, je suis resté longtemps dans les pages blanches. J'y arrivais pas. Parce
vous n'arriviez pas à écrire.
J'arrivais pas, oui, j'étais bloqué. Alors, je savais que j'avais envie de le faire. C'était pas par paresse, c'était pas par manque d'inspiration. Je sentais que j'avais encore des choses à dire. C'était tout simplement à cause du mot tristesse, parce que je sentais que ça allait être triste, et je crois que je ne voulais pas. J'avais un peu peur de tout ce qu'on a déjà dit sur la tristesse de mes chansons, donc je ne voulais pas en rajouter non plus. Et dans une discussion avec Lucas, à un moment, il a dit un peu ce qu'il vient de vous dire, c'est-à-dire il a parlé de mélancolie. Et là, ça fait tilt, quoi. J'ai dit, arrête de te morfondre avec la tristesse, c'est la mélancolie qu'il faut choisir. Et il faut traiter le texte aussi de façon mélancolique. Dans la mélancolie, il y a encore de l'énergie, il peut y avoir du plaisir, c'est très large, la mélancolie. Et puis, on aime ça, quoi. Donc, voilà, tout le choix de ce disque vient peut-être de cette discussion qu'on a eue, comme ça, à bâton rompu, en parlant de tristesse et de mélancolie.
Ensuite, c'est, pour moi, tout ça reste une palette de couleurs et dans laquelle on pioche ici et là pour se mettre au service d'une chanson. Et
aujourd'hui, je trouve ça superbe justement d'avoir amené des variations par rapport aux instruments de basse que j'utilisais avant, d'avoir un sax assez présent, synthé sax.
En fait, on a cherché aussi à pas toujours s'ancrer dans des sons qu'on connaît et aussi d'essayer d'en inventer, et notamment d'essayer d'inventer un clavier basé à partir de plusieurs lignes de saxophone pour faire des accords, en fait.
C'est vrai qu'au début, j'étais, sans m'exprimer, j'étais un peu réticent. J'avais des doutes parce que je n'avais pas l'habitude de faire ça, ni d'entendre ma voix comme ça. Des doutes silencieux, je tiens à signaler. aujourd'hui, j'adhère complètement.
Pourquoi vous insistez sur des doutes silencieux ?
Parce que j'en ai pas parlé. C'est peut-être là où il y a un fonctionnement entre père et fils que j'aurais peut-être pas eu avec un...
C'est une précaution que vous auriez pas prise.
Avec quelqu'un d'autre, quoi.
La sensation que j'ai, c'est que, Hubert, c'est que vous vous êtes vraiment laissé guider.
Par le réalisateur.
Oui, par Lucas, par votre fils.
Complètement, oui. Complètement, parce que je sais qu'au bout du compte, je serai pas déçu.
Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de croix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois. Là-bas, au loin, les jongleurs sans loi. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant.
Géographie du vide, c'est le titre du nouvel album d'Hubert Félix Thiéphen. Sa tournée commence à Chenôve le 9 janvier. Pour le moment, la dernière date annoncée, c'est à Quimper, le 21 mai. Entre-temps, il y aura 4 dates à Paris, les 26, 27, 28 et 29 janvier 2022. Koyen Guyen a réalisé cette émission avec Rémi Sistiaga ce matin. Ilinka Negulesco assure la préparation de Pop & Co avec Jean-Baptiste Audibert pour la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co et Pop & Georges comme Brassens. Suivront le label de musique soul Stax plus Juliette Armanet et puis un Pop & Christophe. D'ici là, à samedi.